Alors, la question du jour est les sacrements de point du folklore, point d'interrogation. Les sacrements, est-ce du folklore ? Alors, pourquoi cette question ? Lorsque les sociologues se penchent sur le catholicisme, ils ont plusieurs moyens de quantifier la vitalité de cette religion. Et on peut employer des moyens d'évaluation purement subjectifs, faire des enquêtes et des sondages où les gens disent ce qu'ils croient, disent s'ils se sentent appartenir à la religion catholique. Et il y a un autre moyen d'évaluation pour peser, d'un point de vue quantitatif, la vitalité de cette religion dans la société française, c'est de faire cette fois des enquêtes, voire des recensements sur leurs pratiques sacramentelles. Est-ce que les Français sont baptisés ? En quelle proportion ? Est-ce qu'ils font baptiser leurs enfants ? Est-ce qu'ils vont à la messe le dimanche ? Etc. etc. Et quand on mesure cette pratique religieuse, eh bien, on peut avoir une idée de la vitalité du catholicisme français et on se dit qu'il est assez mal en point ces temps-ci. Bon. Alors, pour revenir à la question de cette question sociologique, les sociologues, et à juste titre, distinguent en général quatre catégories de Français dans leur rapport au catholicisme. On pourrait dire qu'il y a tout d'abord ceux qui ne croient pas à la foi catholique et ne la pratiquent pas. Donc, ceux qui ne croient pas, qui ne pratiquent pas la religion catholique, en aucune façon, athées, agnostiques, adeptes d'autres religions. Il y a des croyants pratiquants. Et puis, il y a deux autres catégories intéressantes. Il y a des croyants non pratiquants. C'est une très, très forte proportion de la population française. On peut dire que la population française est même... Alors, majoritairement, j'en sais rien, mais elle est fortement composée de croyants non pratiquants. Et enfin, il y a une catégorie non moins intéressante, alors pas forcément recensée par les sociologues, et c'est dommage, ce sont les pratiquants non-croyants. Ne riez pas. Les pratiquants non-croyants, c'est une catégorie qui a été extrêmement nombreuse par le passé, hein, très très importante. Je dirais que ça a même été assez banal. Et il y en a probablement plus qu'on ne croit de nos jours, des pratiquants non-croyants, c'est-à-dire des gens qui pratiquent, qui reçoivent les sacrements, mais ne croient pas aux articles de la foi catholique. Alors, l'usage de telles catégories sociologiques a son utilité, elle est indispensable pour décrire, étudier certains phénomènes sociaux, et leur emploi, l'emploi de ces catégories, nécessite une conscience assez précise des conditions d'élaboration de celles-ci. C'est-à-dire que, par exemple, quand on évalue si un catholique est pratiquant, il faut savoir ce qu'on entend par pratique religieuse. Est-ce qu'un catholique qui va à la messe une fois par mois est un pratiquant régulier ou pas ? Ce n'est pas évident. Est-ce qu'un catholique qui va à la messe une fois par an à la messe de minuit ou deux fois par an à la messe de minuit et jour de Pâques, est-ce que c'est un catholique pratiquant ou pas ? Et selon qu'on retient tel ou tel critère, les chiffres changent considérablement. Et d'autre part, si on était extrêmement strict, on ne devrait retenir comme catholique pratiquant régulier que ceux qui observent parfaitement tous les commandements de l'Église catholique, en particulier tous les commandements relatifs à la pratique, à la pratique régulière, ce qu'on appelle les commandements de l'Église. Donc il faudrait non seulement aller à la messe tous les dimanches, jours de fête, il faudrait observer les jours de jeûne et d'abstinence, il faudrait, alors ça tombe bien, il y en a plus beaucoup depuis Vatican II, il faudrait se confesser une fois par an, au moins, voilà, il faudrait... communier une fois par an dans la période pascale, dans le temps pascal, et il faudrait verser son denier du culte, et verser un denier du culte proportionné aux revenus selon une proportion raisonnable, au moins, que je ne donnerai pas ici, de peur que certains se considèrent plus eux-mêmes comme pratiquants. Donc, voilà. Donc, si on était très strict, il y aurait peut-être encore moins de pratiquants que ce qui est mesuré de nos jours. Je crois qu'en 2009, on était à 4,5% de la population française qui serait composée de catholiques pratiquants. Voilà. Bon, disons réguliers ou messalisants, peu importe. Bon, si on prend des pratiquants moins réguliers, on a plus. Enfin bon, peu importe ici. Alors, pour revenir à ces concepts, il est très important, quand on veut faire de la sociologie ou quelques sciences humaines, de s'interroger sur le sens des concepts qu'on emploie. Et parmi les catégories que j'ai énoncées, il y a deux catégories qui, telles que je les ai formulées, peuvent paraître, énoncer des absurdités. C'est-à-dire que l'absurde, en logique, c'est tout ce qui relève de la contradiction logique. Hein, si je vous parle de cercle carré ou de carré rond, je profère des absurdités. Eh bien, on pourrait se demander si parler de croyants non pratiquants ou de pratiquants non croyants ne relève pas en quelque façon de l'absurdité. Est-ce qu'on peut vraiment être croyant et non pratiquant ? Est-ce qu'on peut être pratiquant et non croyant ? Est-ce que tout cela ne relève pas de l'irrationnel ? Alors, pour les sociologues et les anthropologues, l'irrationnel est peut-être quelque chose qui fait partie de l'être humain. Et on pourrait dire que, justement, l'homme n'est pas simplement un animal rationnel, c'est un animal qui, dans un grand nombre de ses comportements, peut être jugé, au moins de l'extérieur, comme irrationnel. Pas sûr que toutes les pratiques humaines soient parfaitement cohérentes, ni même non plus les convictions. Néanmoins, pour des philosophes, l'irrationnel n'est pas recevable comme tel. C'est-à-dire que l'irrationnel, il peut avoir deux figures, en gros. Un irrationnel pratique, quand des personnes ont une conduite incohérente. Ça, cet irrationnel pratique, il existe de fait. Mais l'exigence éthique en philosophie, c'est justement d'être cohérent dans ses pratiques. Je ne dis pas que c'est la seule exigence, mais c'est une des exigences fondamentales de l'éthique. Autrement dit, si l'on relève qu'il y a de l'irrationnel pratique, d'un point de vue philosophique, on ne peut que blâmer cette irrationalité. Si je m'en tiens à un point de vue philosophique, ça ne veut pas dire que je dirais à des croyants non pratiquants qui doivent se mettre à pratiquer, je leur dis qu'il faut choisir entre être croyant et pratiquant ou être non croyant et non pratiquant, mais il y a peut-être là une contradiction interne. Nous y reviendrons plus tard. À l'opposé, il y a un irrationnel théorique. Enfin, par ailleurs, il y a un irrationnel théorique. Et l'irrationnel théorique m'intéresse plus, à vrai dire, parce que le rôle d'un philosophe n'est pas tellement de blâmer, sauf quand il joue un rôle éthique. Le rôle d'un philosophe, c'est surtout de clarifier les pensées. Et dans l'ordre théorique, lorsque nous sommes confrontés à un concept ou un discours irrationnel, il faut le reformuler, le repenser en d'autres termes. C'est-à-dire que là où les gens parlent de carré rond, de cercle carré, il faut essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire et essayer de reformuler la chose en termes qui soit cette fois rationnel. Par exemple, ça peut être mon carré rond peut être une figure géométrique qui a certaines caractéristiques du carré, mais des angles qui ont été arrondis. Voilà, donc figure géométrique qui n'est ni un carré ni un rond, qui a une caractéristique particulière. Un mathématicien saurait mieux dire que moi ce que c'est, mais cela peut exister et il est simplement irrationnel de désigner ainsi la figure géométrique en question. Et de même, mon rond carré, ça peut être, dit dans un langage inadéquat, kiliogone, c'est-à-dire une figure à 1000 côtés, un kiliogone régulier, qui ressemble de très près à un cercle, mais avec des petits côtés, vous voyez, qui sont en fait droits si on regarde de plus près, qui sont des lignes droites. Donc là encore, je peux reformuler mon concept en termes adéquats, et justifier le fait que la langue populaire s'exprime de manière inadéquate si j'ai pris soin de bien interpréter ce que voulait dire la langue populaire de manière inadéquate et en fait irrationnelle. Et donc, ce qui m'intéresse dans un premier temps, avant de venir à mon sujet, c'est d'essayer de comprendre ce qu'on veut dire quand on parle de croyants non pratiquants ou de pratiquants non croyants. Car en fait, derrière ces formules, il y a peut-être des cas de figure assez différents. Donc je vais commencer par les pratiquants non-croyants. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans une de ses premières conférences, Jean-Noël Dumont a dit au passage, il y a quelque temps, qu'on ne pouvait pas être un croyant non-pratiquant, mais qu'en revanche, pratiquant non-croyant, c'est très estimable, très respectable. Bon, personne n'a relancé là-dessus. Moi non plus d'ailleurs, je crois avoir une idée de ce qu'il voulait dire, mais je vais donc distinguer deux cas de figure, et je crois que le deuxième rejoint assez bien son propos. Le premier cas du pratiquant non-croyant, c'est la pratique par conformisme social. La pratique par conformisme social, dans une société où il y a une valorisation sociale de la pratique religieuse, et où donc, même si l'on n'est pas croyant, on a intérêt à se montrer à la messe. Hein. Donc c'est difficilement défendable d'un point de vue éthique, d'un point de vue religieux. Je pense toujours, dans ce cas-là, à, dans ce roman que j'aime beaucoup, « Autant emporte le vent » de Margaret Mitchell, dans le roman, hein, ça n'apparaît pas dans le film, Red Butler, qui n'est pas un exemple de piété, accompagne Scarlett O'Hara, qui est catholique, à la messe. Mais quand il l'accompagne à la messe, c'est pour lui glisser à l'oreille des plaisanteries graveleuses ou des moqueries sur les gens qui assistent à la messe discrètement. Voilà, c'est une période où Red Butler cherche à avoir une certaine honorabilité dans la société, dans l'intérêt de la fille qu'il a eue avec Scarlett O'Hara. Donc, voilà. Donc là, on est parfaitement dans l'hypocrisie, le cynisme, etc. Alors, les exemples plus nobles, c'est bien sûr Tartuffe, évidemment, et puis le vicomte de Valmont, qui, pour séduire Madame Tourvel, va également à la messe et accomplit l'œuvre de charité. Donc tout cela, on connaît le pratiquant non-croyant qui est purement et simplement hypocrite. Alors, ça fonctionne bien dans une société où le catholicisme imprègne complètement les rapports humains et comment dire, où il y a une pression sociale en faveur du catholicisme et émanant du catholicisme sur le reste de la société. Ce n'est plus tellement le cas de nos jours. Alors, il y a un deuxième cas de pratiquants non-croyants. Il y a un deuxième cas de pratiquants non-croyants extrêmement estimable qu'il ne faut vraiment pas négliger. C'est-à-dire qu'on peut être attiré par la foi sans encore croire et pratiquer d'une manière encouragée par Blaise Pascal dans les pensées, pratiquer machinalement. Ce que Pascal appelle pratiquer machinalement signifie pratiquer les rites de la religion dans le but de lutter contre ses passions et de se rendre réceptif à la grâce divine. C'est l'attitude que Pascal, par exemple, recommande dans les pensées de Pascal à l'issue de ce qu'il appelle le pari. Vous savez, il y a un argument fameux de Pascal qui s'appelle le pari, qui consiste à dire vous avez tout intérêt à croire, parce que ce à quoi vous avez à renoncer n'a aucune valeur, ce que vous avez à espérer gagner a une valeur infinie. Donc quand on met en jeu quelque chose qui a une valeur nulle dans l'espoir de gagner quelque chose qui a une valeur infinie, quoi qu'il arrive, on a intérêt à parier. Mais contrairement à ce qu'on croit souvent, le pari ne débouche pas du tout sur la foi de la personne qui a parié. Le pari, il a pour but d'inviter une personne qui n'est pas croyante à pratiquer extérieurement la religion, de manière rituelle, dans le but progressif de s'ouvrir à cette foi qu'il n'a pas encore. Et ici, vous voyez que la pratique religieuse précède la foi. Et c'est une chose qu'on a un peu tendance à perdre de vue, mais qui est réellement, qui a existé, qui existe encore un petit peu occasionnellement, c'est celle d'un chercheur de Dieu, voyez, qui fait confiance à la pratique religieuse pour progressivement rendre possible, libérer la possibilité d'une expérience spirituelle vécue, qui cette fois enracinerait la foi, c'est le cas de le dire, dans son cœur. Et cette attitude n'est pas si rare. On a, je pourrais citer un écrivain contemporain qui a eu une période où il a cherché la foi, alors il ne l'a pas trouvée, enfin du moins pas à ma connaissance, c'est Houellebecq. Fabrice Hadjadj raconte qu'à une époque où lui-même n'était pas encore croyant, je crois qu'il connaissait déjà Houellebecq, je ne sais plus exactement, et un jour il avait surpris Houellebecq ayant aligné chez lui une collection de Magnificat. Il était abonné à Magnificat. C'est quand même intéressant. Donc, bon. Alors ça ne l'empêche pas d'écrire des livres avec plein de scènes érotiques et portant un regard complètement désabusé sur le monde, voilà, et avec aucun espoir. Mais on voit que Houellebecq a une période de chercheur de Dieu, peut-être par une pratique religieuse. Alors je ne voudrais pas être indiscret non plus, je ne sais pas s'il en fait étalage. Enfin, Fabrice Hadjadj en a parlé, donc... Un autre exemple donc, intéressant, Ludwig Wittgenstein, qui n'était pas vraiment un catholique exemplaire, mais qui a tenu à être enterré selon le rite catholique. Vous voyez, même si lui-même, on ne peut pas dire que, du moins dans la fin de sa vie, il était croyant. Il est passé dans sa vie par des phases de profonde inquiétude religieuse, même de foi, on peut dire, à un moment. Et au moment de sa mort, c'était probablement plus le cas, enfin, qui sait quel intérêt des personnes. Mais les exécuteurs testamentaires de Wittgenstein ont convenu que, du point de vue même de Wittgenstein, le fait d'être enterré selon le rite catholique, même si lui-même n'était pas vraiment sûr d'être croyant, d'accord, avait un sens. Avait un sens. Puisque chez Wittgenstein, la pratique religieuse en elle-même est essentielle et il y a là justement quelque chose, un acte existentiel significatif du fait que dans le doute, même quand on n'est pas sûr de croire, on peut trouver un sens à poser un acte religieux face à la possibilité d'un salut éternel. Bien. Donc, vous voyez, être pratiquant et non-croyant, ça peut avoir un sens. Ça peut avoir un sens différent de la simple tartufferie, de la simple hypocrisie. Ceci me conduit maintenant à envisager le deuxième cas de figure sociologique, ce sont les croyants non-pratiquants. Alors là, c'est une catégorie extrêmement remplie. Et avant d'en arriver là, il y a une catégorie qui n'est ni tout à fait croyant non pratiquant, ni tout à fait pratiquant non croyant, qui est la catégorie assez courante aussi des, qu'on pourrait dire, des croyants qui pratiquent occasionnellement, sans être ni tout à fait sûrs de croire, ni tout à fait sûrs de l'utilité de leur pratique, ni du sens de leur pratique. Donc des croyants un peu tièdes, hein, pratiquants occasionnels. C'est une attitude qui n'est pas sans faire penser à l'attitude de Descartes dans le discours de la méthode. Lorsqu'il dit « je vais engager un doute méthodique sur toute chose, je mets à part les vérités de la foi dans laquelle j'ai été élevé », mais Descartes prend aussi soin d'élaborer une morale par provision où il dit que la première maxime, c'est, dans le doute, de vivre conformément aux lois et coutumes de mon pays. Dire qu'il y a un conformisme ici, quand on n'a pas de conviction ferme, voyez, qui conduit, si on est porté par une société où il y a une pratique religieuse majoritaire, à suivre un peu le mouvement sans faire de zèle. Donc tout cela n'est pas de l'ordre du non-sens, mais cela ne doit pas être confondu avec le cas qui va suivre, qui est plus intéressant, qui est le cas, je dirais, du croyant non-pratiquant parce qu'en situation irrégulière. C'est, je dirais, le croyant non-pratiquant à l'ancienne, ancienne manière. C'est-à-dire, c'est une manière d'être catholique et de vivre la foi catholique qui était au fond assez répandue dans la France du passé, des chrétiens qui n'avaient pas de pratique religieuse régulière, qui n'allaient pas à la messe tous les dimanches, qui tenaient à être baptisés, à faire baptiser leurs enfants, qui quand même se déplaçaient une ou deux fois par an à la messe au moins, et ils tenaient, on en trouve encore, hein, c'est pas absolument exceptionnel. Et qui étaient plutôt croyants, qui sont plutôt croyants, mais, qui se tiennent à distance de la pratique religieuse, souvent, justement, parce qu'ils ont conscience que se convertir davantage exigerait des choix, de faire des choix de vie différents des leurs. Alors, il y a un exemple assez amusant, c'est Louis XIV. Alors Louis XIV, lui, il assistait à la messe, oui, mais il se gardait bien de communier régulièrement. Et Louis XIV avait des maîtresses. Et Louis XIV, régulièrement, tous les ans, au moment du carême, répudiait sa maîtresse, faisait ses Pâques, puis passait Pentecôte et la Trinité reprenait sa maîtresse. Vous voyez, donc il y avait un ajustement de la pratique religieuse, d'accord, dans le cadre d'une foi sincère. Vous voyez, avec une non-pratique religieuse sur la plus grande partie de l'année, il y a quand même un moment où on s'est obligé de reprendre la pratique religieuse, mais il avait en quelque sorte organisé une alternance de non-pratique religieuse ou de pratique simplement extérieure, sociale, je dirais, liée à sa fonction, et de pratiques religieuses sincères, vous voyez, les deux étant enchâssés. Et ce qu'a vécu Louis XIV, bah, bien d'autres l'ont vécu. Par exemple, beaucoup racontent que pour la... Vous savez, on dit toujours que la contraception, l'interdiction de la contraception par l'Église serait une cause de brouille entre les catholiques et le magistère depuis 1968 et Humanevitae. Bon, oui, enfin, c'était pas nouveau. Enfin, bon, ce qui était nouveau, c'est qu'il y avait eu l'attente que l'Église change son discours. Mais bien avant, c'était déjà le cas, au XVIIIe, au XIXe siècle, au XXe siècle. Et tous les curés de campagne savaient très bien, connaissaient le cas de figure de femmes mariées qui étaient croyantes assidues. Puis quand elles avaient eu un certain nombre d'enfants, soudain ne venaient plus communier pendant plusieurs années. Et puis, passé 50 ans, elles revenaient à l'autel et devenaient des parfaites dévotes. Donc, on savait très bien comment ça fonctionnait. Vous voyez, ou j'ai envie de dire, c'est la bigote gasconne, parce que la Gascogne, c'est un des pays où la contraception c'est le plus vite répandu pour des raisons démographiques, enfin des raisons liées à la transmission des héritages, etc. Donc il fallait restreindre les naissances, etc. Donc tout ça est lié à la structure des familles françaises. Et j'ai envie de dire que notre croyante Gascogne, sur l'ensemble de sa vie, donc il y avait 15 ans de sa vie où elle se tenait loin des autels, mais en fait, il restait quand même une bonne cinquantaine d'années, hein, c'est les 65 ans, où elle pouvait s'approcher des autels, etc. Donc là, on est, vous voyez, dans une formule un peu à la Louis XIV, du croyant non pratiquant, mais c'est là qu'il faut analyser. C'est qu'il a vraiment la foi, votre croyant non pratiquant. Et que sa non-pratique est un moment d'une vie de foi qui, en fait, passe par la reconnaissance de ses propres insuffisances. On n'est pas fier hein, de ça, de ces petits arrangements, etc. Et c'est justement, tout cela fait partie d'un tout, hein, où chacun progresse à sa façon et où, au fond, cette non-pratique a un sens par rapport même à une foi qui est aussi un combat contre soi-même, qui n'est pas facile. Et c'est vrai que les exigences de l'Église dans ces matières, hein, c'est ce discours moral, a toujours été perçu comme difficile. Hein. On pourrait citer d'autres exemples. Un exemple que j'aime beaucoup, moi je suis une militante, donc j'aime beaucoup les stars, les grandes stars. Et, voilà. Et j'ai une passion, par exemple, pour John Ford. Et je ne m'intéresse pas seulement à ses films, j'aime bien aussi sa biographie. Donc John Ford, catholique irlandais, d'origine, hein, donc américain, il quitte sa famille d'immigrés irlandais, va en Californie, et là-bas, il se marie. Mais sa femme a trois défauts aux yeux de sa propre famille de catholiques irlandais du Nord. C'est une sudiste, ça peut se pardonner. C'est une presbytérienne. Oh là, c'est mal. Elle est divorcée. Aïe, aïe, aïe. Elle est divorcée. Donc, pas de mariage sacramentel, etc., etc. Et c'est la période où John Ford tourne ses premiers films, ceux des années 30, Les raisins de la colère, etc. C'est le John Ford, quand même, pas mal à gauche. Et puis, 1940, date à retenir, le mari de sa femme, l'ex-mari, meurt. Et donc, ils peuvent se marier à l'Église. Et il se marie à l'Église le 7 décembre 1941, c'est la date de Pearl Harbor. Donc vous avez un tournant dans la vie de John Ford, il reprend la pratique religieuse, en plus il y a la guerre, donc c'est un moment où, voilà. Et donc vous avez là le John Ford qui devient beaucoup plus, catho-conservateur en matière de mœurs, plus strict, etc., plus familialiste, voilà. Et donc c'est un itinéraire qui est en fait... auquel ressemblent beaucoup d'autres itinéraires. Voilà, le plus célèbre étant Paul Claudel, donc là, on a le catholique déchiré à l'époque de sa liaison adultérine avec sa maîtresse, donc qui était mariée, lui-même n'était pas encore marié, donc qui a été la source du partage de Midi. Voilà. Donc vous voyez, là, le partage de Midi, c'est un drame autobiographique et fondé sur ce que fut son déchirement d'être dans cette situation où il croyait sincèrement et il était en parfaite contradiction avec sa propre foi. Bon, voilà, donc vous avez des croyants non pratiquants de ce type, c'est-à-dire où justement l'exigence de la foi entre en conflit avec certaines exigences pratiques et où la résolution de ce conflit ne va pas de soi. Elle ne va pas de soi. Et l'Église a toujours connu ces cas-là. Et tout le monde n'avait pas forcément, comme Louis XIV, un père Lachaise, c'est de son confesseur, compréhensif, même si pour Louis XIV, finalement, ça s'est pas trop mal fini, puisqu'il a fini par se marier, et se remarier voilà, avec une femme qu'il aimait, et qu'il n'a plus trompé, du moins pas à ma connaissance. Voilà. Donc là, nous avons donc une manière d'être croyant non pratiquant qui est pleine de sens, je dirais, et il faut justement voir que, eh bien, la vie d'un chrétien n'est pas toujours facile, c'est normal, il y a un combat spirituel à mener, chacun a ses combats à mener, c'est plus ou moins spectaculaire, et cette difficulté à pratiquer fait partie justement de la vie chrétienne, c'est pas quelque chose qui est à part, ça en fait partie. N'y voyez pas un encouragement, messieurs, à tromper vos épouses, n'y voyez pas un encouragement à vivre loin de la foi chrétienne, c'est pas, enfin, loin de la pratique chrétienne. Mais disons que la non-pratique religieuse a un sens, peut avoir un sens, et même un sens profond dans une vie chrétienne. Mais j'en arrive à une nouvelle forme, une nouvelle manière d'être croyant non-pratiquant, je dirais qui s'est particulièrement répandue depuis Vatican II, et qui celle-ci pose vraiment problème. C'est le cas de croyants non pratiquants qui disent croire à la religion catholique mais ne voient pas l'intérêt de pratiquer les sacrements, ne voient pas l'intérêt d'aller se confesser, ne voient pas l'intérêt d'aller à la messe, ne voient pas l'intérêt, voilà, donc ne voient pas l'intérêt d'une pratique régulière ici, si on passe simplement à intervalle de temps régulier, mais je dirais conforme aux règles de l'Église. Régulier, ça veut aussi dire ça. Et donc mon propos est de dire que se dire croyant dans ce cas-là, je ne parle pas du croyant qui résiste à sa foi, pour qui voit que la pratique est très exigeante et que ça peut être difficile de pratiquer. Le croyant qui croit que les sacrements sont au fond des ornements décoratifs dans la vie chrétienne, a visiblement une foi qui n'est pas du tout la foi catholique. Il croit quelque chose, mais ce qu'il croit n'a rien à voir avec la foi chrétienne et surtout la foi catholique, parce que justement, la vie sacramentelle, et surtout, même si on ne la pratique pas, la croyance à l'importance de cette vie sacramentelle est essentielle à la foi catholique. Elle est essentielle. C'est d'ailleurs ce qui rend très inquiétant, hein, la non-pratique religieuse des catholiques de France depuis un demi-siècle. C'est extrêmement inquiétant. C'est beaucoup plus inquiétant que la non-pratique d'avant, qui s'expliquait pour les raisons que j'ai dites. Il s'est produit une rupture dans les années 70 dont on n'a pas fini d'analyser les raisons, et je me garderai de me jeter sur une explication facile. Hein. En tout cas, il s'est produit une rupture parce qu'on est passé de la non-pratique religieuse telle que je vous l'ai dite, de gens qui, au fond, croient, mais éprouvent des difficultés à mettre en harmonie leur vie avec leur foi, à une situation où des gens disent croire, mais le contenu même de ce qu'ils croient est sans aucun rapport avec ce que, justement, l'Église propose de croire. Donc là, il y a vraiment une rupture. Si vous cherchez à être... si vous êtes catholique pratiquant et vous êtes là pour vous remonter le moral, je ne vous remonterai pas le moral. D'ailleurs, c'est les catholiques, c'est la religion pour les nuls ici. Donc, c'est de manière privilégiée pour ceux qui ne sont ni croyants ni pratiquants, je le rappelle. Hein. Donc, voilà. Donc, vous n'êtes ni croyant ni pratiquant, vous avez mon approbation de philosophe, vous êtes quelqu'un de cohérent. Voilà. Alors, maintenant, vous êtes croyant non pratiquant, deuxième manière, attention, ne voyez pas en moi un donneur de leçons de morale. En fait, si vous êtes dans cette situation, vous avez bien sûr toute mon amitié, toute mon estime, même si j'estime que vous êtes confronté à un carré rond, un cercle carré. Et j'ai quelque chose à vous apprendre, puisque voilà, mon but, ce n'est pas de convaincre des convaincus, c'est surtout de convaincre des gens qui ne sont pas convaincus. Ce n'est pas non plus de convaincre les convaincus qu'ils ont raison d'être convaincus. C'est bon, ce qui est souvent l'objectif de ce genre de conférence. Bon, alors j'en viens à la question du jour, les sacrements sont-ils du folklore ? Les sacrements sont-ils du folklore ? Et ce n'est pas du tout une question anecdotique. Ce n'est pas du tout une question anecdotique. C'est-à-dire qu'on le comprend mieux quand on pose une alternative. Les sacrements sont-ils du folklore ou bien sont-ils des moyens efficaces de salut ? Les sacrements sont-ils du folklore ou bien sont-ils des moyens efficaces de salut ? Si effectivement les sacrements sont du folklore, ce n'est pas la peine d'avoir une pratique régulière. À la limite, on va de temps à autre, à Noël parce que c'est joli, à Pâques parce que, bon, quand même, voilà. Mais la question de fond, c'est est-ce que les sacrements sont un moyen efficace de salut ? Est-ce qu'on a besoin des sacrements pour vivre sa foi ? Et là, la réponse de la foi catholique est extrêmement claire. Oui, on en a besoin. Et le fait de ne pas croire qu'on en a besoin signifie qu'on a autre chose comme foi que la foi catholique. Parce qu'on est passé à côté d'éléments absolument essentiels. Alors, pour comprendre pourquoi nous avons besoin de sacrements, il faut comprendre d'abord pourquoi nous avons besoin de la grâce. Car le rôle des sacrements, c'est de communiquer des grâces. Et pour comprendre pourquoi nous avons besoin de la grâce, il faut d'abord comprendre quel est, selon la doctrine chrétienne, ce qui fait le sens de la vie chrétienne. Ce qui fait le sens de la vie chrétienne, c'est de vivre selon l'amour de charité. Donc, mon premier point sera la question « Pourquoi avons-nous besoin de la grâce ?» Pourquoi avons-nous besoin de la grâce ? Et la réponse, c'est pour vivre. C'est pour vivre l'amour de charité, l'amour de charité proposé par Dieu. La finalité ultime du chrétien, la fin ultime de l'existence, d'après la foi chrétienne, c'est, disent les catéchismes, de connaître, aimer Dieu et le servir. J'ai jamais tellement aimé la formule « connaître, aimer Dieu et le servir ». Les deux premières formules sont très bien. Le servir me gêne un petit peu pour diverses raisons. Il y a une meilleure formule qui a déjà été employée par le pape Pie XI, c'est connaître, aimer Dieu et jouir de lui. Il me paraît plus juste. Car le but, en dernier ressort, c'est de jouir de Dieu. C'est d'aimer Dieu et de trouver, jouir au sens de trouver sa joie en Dieu. Non, mais il faut aussi le servir. Bien sûr, servez Dieu, ce n'est pas le problème. Je ne voudrais pas vous décourager de servir Dieu. Mais le but de Dieu, ultimement, ce n'est pas de nous utiliser à son service. À la limite, il n'a pas besoin de nous. Si nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des serviteurs inutiles. Il pourrait bien se passer de nous pour arriver à ses fins. Et connaître et aimer Dieu sont d'ailleurs ces deux formules donc sont les plus essentielles. Connaître et aimer Dieu, et les deux sont indissociables, puisque quand on aime profondément, on connaît. Et quand on connaît profondément, on aime. Donc la fin ultime, c'est avant tout d'aimer Dieu. Aimer Dieu. Aimer de charité. Aimer de charité. Et ajoutons, aimer son prochain. Aimer son prochain. Aimer son prochain et tout homme quel qu'il soit. Et même toute créature. Le but de la vie chrétienne, c'est d'aimer Dieu. D'aimer tous les hommes, chaque homme en particulier. D'aimer chaque créature. Avec charité, l'amour de charité. Qu'est-ce que l'amour de charité ? Il y a toutes sortes d'amour, mais l'amour de charité, c'en est la forme la plus élevée, au sens où c'est un amour inconditionnel, aimé sans condition. Le principe de l'amour, c'est qu'on veut que l'être aimé existe. D'abord, l'amour a rapport avec l'idée d'existence. Aimer un être, c'est aimer qu'il existe. Aimer un être, c'est aussi vouloir qu'il soit pleinement lui-même. C'est vouloir son bien, sa perfection propre. Donc l'amour a rapport au bien. Aimer un être, c'est vouloir réaliser une certaine unité avec lui. Réaliser une certaine unité. Aimer un être, c'est également vouloir le connaître, le contempler et trouver sa joie dans la contemplation de cet être. se réjouir de son existence, de la contemplation de ce qu'il est dans sa perfection. Quand on aime un être, on est heureux qu'il soit là pour lui-même, etc. Et de savoir qu'il est là. L'amour de charité est inconditionnel. Il est sans condition. C'est aimer absolument les personnes telles qu'elles sont. Chaque personne telle qu'elle est. L'amour de charité implique un don total de soi. Un don total de soi. Et ce don total de soi, on le voit particulièrement dans la miséricorde, c'est-à-dire que l'amour de charité pardonne tout. L'amour de charité, c'est l'amour tel que le Christ l'a pratiqué. Un amour qui se donne totalement, voilà, sans réserve, dans la vérité, sans mensonge, sans complaisance, mais totalement, inconditionnellement, fidèlement. Et de manière miséricordieuse, un amour qui pardonne tout. Voilà. Eh bien, chaque chrétien est invité à aimer Dieu de cette manière et à aimer son prochain de cette manière. Aimer son prochain de cette manière, à l'imitation du Christ, c'est là le fondement de la morale la plus exigeante qui soit. Quand on est chrétien, on ne peut jamais dire à une personne « je ne te pardonnerai jamais », par exemple. Et on doit absolument vivre la charité. D'après saint Jean, qui dit « aimer Dieu et n'aime pas son prochain » et « n'aime pas son prochain de charité » est un menteur. Voyez. Eh bien, je vois vos airs accablés. Voilà. Plus on est vieux, moins on est enthousiasmé par ce genre de discours. bien heureux qui a gardé un cœur d'enfant. Plus on est accablé parce qu'on se rend compte de l'incapacité qu'on a de répondre à un tel appel à aimer. C'est l'appel du Christ. On sent bien qu'on en est incapable par ses propres forces. Et on s'y se retrouve dans la situation du jeune homme riche face au Christ. Le Christ l'appelle à abandonner tout ce qu'il a pour le suivre. Et le jeune homme riche se détourne parce qu'il a de grands biens. Et là-dessus, le Christ dit « Il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. » Alors les apôtres qui se demandent toujours à qui ils ont affaire et où il va les emmener, lui disent « Mais alors, qui pourra être sauvé ?» Et la réponse, c'est bah, à l'homme, c'est impossible d'être sauvé, mais à Dieu, tout est possible. Et nous sommes tous des riches. Nous avons tous de multiples... Le riche est celui qui est attaché à son existence terrestre, qui est attaché à ses biens. De ce point de vue-là, nous sommes tous riches. Bon, il y en a quand même qui sont fauchés, mais la richesse spirituelle, c'est le fait... Voilà, on est attaché, on ne veut pas quitter les choses. Et de ce point de vue-là, nous voyons notre misère. Vous voyez ? Nous voyons notre misère. Mais il est possible d'aimer comme le Christ aime, mais pas par nos propres forces. C'est possible. C'est ça aussi l'enseignement du christianisme. Ce n'est pas possible par nos propres forces, c'est possible avec la grâce de Dieu. D'où l'importance d'une théologie de la grâce. Alors, qu'est-ce que c'est que la grâce ? La grâce, définition, c'est le secours que Dieu nous envoie en vue de notre salut. La grâce, c'est le secours que Dieu nous envoie en vue de notre salut. En fait, le terme est piégé, parce qu'il a de multiples sens. Il y a de toutes sortes de grâces. Donc, il faut distinguer les grâces actuelles, les grâces habituelles et la grâce sanctifiante. Alors, vous êtes perdus. Je vais commencer par le plus important, c'est la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, c'est simple, c'est Dieu lui-même, c'est l'Esprit Saint qui vient en nos cœurs pour le transformer. Je me sens incapable d'aimer de charité. Par exemple, il y a une personne en particulier que je déteste. Bon, ce n'est pas une confession, c'est un cas de figure. Il y a une personne en particulier que je déteste, qui m'a fait du mal, à qui je n'arrive pas à pardonner. Ah, vous voyez ? Dites pas que ça vous est jamais arrivé. Enfin, les moins de 50 ans peut-être. Oh, les moins de 30. Oh, les moins de 15. Allez, les moins de 15, peut-être. Voilà, une personne qui vous a fait du mal, n'est pas bon. Bien justement, la grâce, ça va être ce travail de l'Esprit Saint dans notre cœur qui va nous transformer et nous permettre de poser ce pardon. Et attention, je ne dis pas que c'est seulement le catholique pratiquant qui va avoir cette grâce. Tout homme, lorsqu'il est capable de poser un vrai pardon, en fait, sans le savoir, même si on n'a absolument pas conscience, est travaillé par l'Esprit Saint. Ce n'est pas de lui que vient ce pardon, il vient de plus grand que lui, même s'il ne le sait pas. Et quiconque, une fois dans sa vie, a vraiment fait un vrai pardon, vraiment en profondeur, par là, a rencontré Dieu, même s'il ne le sait pas. Et a vécu l'expérience, une des expériences spirituelles les plus fortes qu'on puisse faire. Voilà. Alors, si vous voulez vivre une expérience spirituelle forte, arrangez-vous pour que quelqu'un de vos proches vous fasse vraiment du mal, comme ça, peut-être que vous vivrez cette expérience spirituelle. Voilà, c'est un conseil, bon, amical. Alors, la grâce sanctifiante, donc, c'est l'Esprit Saint lui-même, ce Dieu qui vient en nos cœurs et qui, de l'intérieur, va le transformer pour nous rendre capables de poser cet acte de charité, qui peut être un acte intérieur. Voilà. Voilà. Si vraiment dans ma vie, j'ai vécu un moment de pardon réel, eh bien, ce moment-là est un moment de rencontre avec Dieu. Et une des meilleures manières de retrouver Dieu dans ma vie, c'est peut-être de me remémorer ce pardon et après d'essayer de le revivre d'autres manières ou de revivre des choses analogues dans ce type de rencontre. Cette grâce sanctifiante, c'est l'Esprit Saint. Alors il y a aussi ce qu'on appelle les grâces habituelles. Ça n'a rien à voir avec la notion d'habitude. Ça renvoie à la notion d'habitus. Et un habitus, c'est quoi ? C'est une disposition de l'âme. Voilà, c'est une disposition de l'âme acquise. La grâce habituelle, ce sont justement les transformations opéré dans notre cœur, dans notre âme, notre esprit, par le travail de l'Esprit Saint. Donc, il y a ce qu'on appelle des fruits de l'Esprit Saint, la joie, par exemple, la vraie joie. Voilà. Ça fait partie des grâces habituelles. Voilà. La bienveillance pour autrui. Voilà. Bon. Arriver à avoir un regard bienveillant, etc. Tout ça, ce sont des fruits de la grâce. Bon. Le désir de mieux connaître Dieu, le désir d'approfondir. Voilà. Apparemment, si vous êtes là, c'est que vous êtes quand même travaillé un peu de l'intérieur. Bon. Ou alors c'est de la vaine curiosité, ce qui est possible. J'aime bien les gens curieux, de toute façon. Bon. Et il y a les grâces actuelles. Les grâces actuelles, donc, c'est ce qu'on appelle les grâces actuelles, ce sont en quelque sorte des événements de notre vie extérieurs à nous-mêmes qui nous mettent sur le chemin de Dieu, même si nous ne le savons pas. L'exemple que j'aime donner, c'est Saint Ignace de Loyola qui se fait briser une jambe à la guerre par un boulet de canon. Apparemment, c'est une tuile, mais non, c'est une grâce. C'est une grâce au sens où c'est ce qui va être l'occasion pour lui de se plonger dans des lectures de vie de saint, etc., qui vont le mettre sur le chemin de la conversion. Voilà. Donc, il y a plein de tuiles dans notre vie qui sont peut-être des grâces actuelles. Bon, il y a d'autres grâces actuelles qui sont plus sympas, hein. Par exemple, des rencontres, par exemple, des lectures, voilà, bon, ça peut être des grâces actuelles. Bon. Voilà. Donc, l'idée, c'est que Dieu vient à notre secours de l'extérieur, de l'intérieur, mais fondamentalement, quand Dieu vient de l'intérieur, c'est Dieu lui-même en personne, en la personne de l'Esprit-Saint, et cela transforme notre cœur, et puis il y a des interventions externes qu'on appelle des grâces actuelles. Voilà. Et nous avons besoin donc pour aimer avec charité et pour croire aussi, parce que la foi accompagne la charité normalement, même si c'est pas toujours si simple. Bon, pour aimer avec charité, en tout cas, nous avons besoin de ce travail de l'Esprit Saint en nous, la grâce sanctifiante, qui va nous transformer. Et c'est un chemin qui ne se fait pas sans résistance, sans difficulté. Le principe même du travail de la grâce, c'est que cet Esprit Saint, il rencontre en nous des points de résistance. Je peux avoir envie de pardonner et en même temps pas avoir si envie de pardonner que ça, car je suis un être humain. Mes désirs sont contradictoires. Il n'y a pas un être humain qui soit parfaitement cohérent dans sa vie. Et donc, je peux être partagé. Et c'est pourquoi le travail de la grâce prend la forme d'une lutte. Une lutte dont le symbole est la lutte de Jacob avec l'ange. Israël, c'est celui qui a lutté contre Dieu. Et toute l'histoire d'Israël, l'homme d'abord, le patriarche, puis le peuple d'Israël, figure ce qu'est la vie spirituelle d'un chrétien qui est travaillé par la grâce, mais par une grâce qui rencontre de nombreuses résistances en lui-même. C'est Julien Green, je ne sais pas si vous connaissez Julien Green, on l'oublie un petit peu malheureusement, donc cet écrivain catholique du XXe siècle, j'ai du mal à dire siècle dernier, parce que pour moi le siècle dernier c'est toujours le XIXe siècle, je suis en retard d'un siècle. Bon, et Julien Green est peut-être la plus belle figure de l'homosexuel catholique du XXe siècle. Bon, il était très beau. Vraiment bel homme, et puis il aimait vraiment les hommes, physiquement. Donc, ouais. Et il était profondément catholique croyant, et sa vie spirituelle a été complètement traversée par cette contradiction flagrante qu'il y avait entre son orientation son désir spirituel. Et donc, si vous êtes dans ce cas, pas seulement d'ailleurs, vous avez vraiment tout à fait intérêt à lire son journal, même si dans son journal il est très discret, en fait, tout est codé, ou ses livres. C'est une grande figure de cela. Et Julien Green a dit une fois, je ne sais plus où, hein, je ne vous donnerai pas la référence parce que je ne l'ai plus en tête, qu'il était arrivé à comprendre au cours de sa vie, en lisant la Bible, que ce que la Bible disait du peuple d'Israël, c'était sa propre vie à lui. Parce que la vie d'un chrétien, ça va être cette lutte permanente, voyez, où, au fond, Dieu nous mène vers la sanctification, mais à travers le chemin du péché. C'est bon ? Donc voilà, nous avons besoin de la grâce, et cette grâce nous fait cheminer, et cette grâce, elle peut se communiquer de deux manières. La première manière dont se communique la grâce, c'est par des moyens extraordinaires, en dehors de l'ordre. Extraordinaire, ça veut dire pas forcément extraordinaire au sens banal du terme, c'est-à-dire littéralement en dehors de l'ordre habituel dont les choses se passent. Par exemple, je peux être touché par la grâce, par une effusion de l'esprit, voilà. C'est ce qui arrivait à Pascal lors de sa conversion une nuit de novembre 1654. Voilà, il est touché par la grâce, il fait une expérience de Dieu directe et il en laisse la trace dans son mémorial. Autre exemple, André Frossard, fils d'un des fondateurs du Parti communiste français, qui à 20 ans est absolument athée, incroyant, d'ailleurs ne connaît pas grand-chose à la foi catholique, rentre dans une église et en ressort croyant et convaincu de la vérité de tout le credo catholique qu'il n'avait jamais appris par ailleurs. Voilà, donc ça c'est la grâce. Alors ça reste extraordinaire dans tous les sens du terme, exceptionnel. Alors si vous fréquentez des milieux charismatiques, il y a beaucoup de gens qui ont vécu ce genre d'expérience, des effusions de l'Esprit Saint. Bon, mais vous n'êtes pas obligé de passer par la phase du dévissage d'ampoule, d'accord, ou du parler en langue, spectaculaire. Hein, pour être touché par la grâce. Il y a d'autres manières, moins spectaculaires, mais tout aussi efficaces. Pourquoi ? Parce que là encore, comme le rappelle Julien Green dans certains de ses écrits, la grâce n'est pas sensible. Il raconte sa première communion, il dit « Je m'attendais à... Ben non, rien de spécial. Je me trouvais l'hostie un peu collante, un peu salée. » Bon, enfin bon, voilà, genre de réflexion débile qu'on se fait quand on fait sa première communion. C'est ce, que, ouais, c'est ce qui m'est arrivé moi, en fait. Voilà, bon. Et voilà, il y a des gens que ça transporte au 7e ciel. Bon, voilà, tant mieux pour eux. Bon. Mais ce n'est pas le fond du problème. Parce que la grâce n'est pas sensible. Le sel, c'est sensible, l'amidon, c'est sensible, etc. La grâce n'est pas. Elle n'est pas forcément, en tout cas. Vous voyez ? C'est-à-dire que l'Esprit Saint, il va nous travailler intérieurement. Et les moyens ordinaires par lesquels, par contre, nous pouvons être sûrs de recevoir la grâce de Dieu, ce sont justement les sacrements. Les sacrements ont justement pour fonction de nous communiquer la grâce de Dieu, ce secours, même si cette communication n'est pas sensible. Mais quand je reçois un sacrement, je peux avoir la certitude que par l'intermédiaire de ce sacrement, Dieu me communique sa grâce. Même si par ailleurs, ça ne se manifeste pas de façon sensible, consciente, spectaculaire. Et attention, ce sacrement, si je le reçois bien, aura du fruit. Si je le reçois mal, si je reçois le sacrement sans être ouvert à l'action de la grâce, simplement par conformisme ou parce que j'ai vu que d'autres communiaient, faisaient la queue, je me suis dit pourquoi pas faire comme eux, etc. Non, là, ce ne sont pas de bonnes dispositions. Mais si j'ai reçu dans des dispositions d'ouverture au travail de la grâce, j'ai la garantie qu'il y aura une opération de la grâce. Voilà. D'où mon deuxième point. Qu'est-ce qu'un sacrement ? Qu'est-ce qu'un sacrement ? Voilà. Un sacrement est un signe communiquant la grâce qu'il signifie. Un sacrement, c'est un signe communiquant la grâce qu'il signifie. Ah. Voilà la définition du sacrement telle qu'elle est exprimée dans le catéchisme de l'Église catholique. Un sacrement est un signe. Dans tout sacrement, il y a à la fois un geste rituel et une parole. Un geste rituel précis, une parole précise. Il va y avoir 7 sacrements, d'après le catholicisme. Le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Tout d'abord, ces 3 sacrements formant ce qu'on appelle les sacrements de l'initiation. Baptême, confirmation, Eucharistie. 2 sacrements de guérison, qui sont le sacrement de réconciliation, si vous préférez la confession, la pénitence, mais le terme le plus juste est sacrement de réconciliation ou sacrement de pardon. L'onction des malades, qu'on appelait autrefois l'extrême onction, qu'on préfère appeler l'onction des malades. Donc ces 2 sacrements sont onction des malades et réconciliation sont les 2 sacrements de guérison. Et il y a enfin 2 sacrements du service de la communion. Les 2 sacrements du service de la communion, il y a d'autres formules possibles, qui sont l'ordination, par laquelle on devient diacre, prêtre ou évêque, et le mariage. Chacun de ces sacrements est caractérisé par un signe, il y a une dimension de signe visible. Signe visible, il y a un geste et une parole. Donc dans le baptême, il y a le signe. Il y a plusieurs signes en fait dans le baptême. Le signe essentiel, c'est le signe de l'eau. Donc ça peut être le baptême par immersion, qui est quand même la forme la plus primitive, être plongé dans l'eau. Ou la triple, le triple ondoiement, on verse 3 fois de l'eau sur le front, et la parole, je te baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Si vous dites du Saint-Esprit, c'est bon. Voilà, donc le geste et la parole. Donc dans la communion, il y a les paroles de la consécration prononcées par le prêtre qui permettent je ne vais pas rentrer dans le détail, et bien sûr ensuite le fait de manger le corps du Christ. Il y a dans la confirmation, là encore, un geste et une parole. Donc le geste, en l'occurrence, en fait, il y en a même 2. Il y a une imposition des mains et surtout, plus essentiellement, une onction, donc un peu d'huile, huile sainte, sur le front. Voilà, etc., etc. Je ne vais pas détailler tous les sacrements, ce n'est pas forcément mon propos aujourd'hui, de toute façon on n'aurait pas le temps de tout faire en détail. L'important c'est qu'il y a le geste et la parole. Donc, par exemple, chez les jeunes mariés, la parole c'est l'échange des consentements, et le geste, alors là les théologiens en discutent, mais on convient souvent que c'est la consommation du mariage. En termes de consommation est perdue, rend en tout cas le mariage indissoluble. Voilà. Bon. C'est une théologie. Je ne dis pas que c'est forcément absolument le point d'accord de tous les. Mais voilà. Bon. Pour qu'un mariage soit complet, il faut qu'au lit se passent certaines choses que je ne vous détaillerai pas. Bien. Donc, pour qu'il soit complet, en tout cas, pour qu'il soit indissoluble. Bien. Alors, il y a ces sacrements et il y a une dimension de signe à chaque fois. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la notion de signe efficace. C'est-à-dire qu'un sacrement n'est pas simplement un symbole qui s'adresserait à notre intelligence pour nous dire quelque chose. Un sacrement n'est pas simplement un rite. On peut avoir des rites. Nous avons des rites. Je sais pas, les militaires ont le rite du salut du drapeau. Les footballeurs ont des rites bien particuliers. Si vous assistez à une compétition sportive, il y a une foule de rites qui sont en place. Tout est ritualisé dans les compétitions sportives. Vous allez à Gerland, aller voir un match, tout est ritualisé. Les joueurs rentrent dans le terrain, sur le terrain d'une certaine manière, on salue l'arbitre d'une certaine manière, on se serre la main d'une certaine manière, etc., etc. Il y a une très forte ritualisation dans le sport et dans beaucoup d'autres domaines. Bon. Et donc les rites méritent vraiment d'être étudiés, analysés, mais un rite n'est pas efficace au sens d'un sacrement. Si je regarde par exemple les rites maçonniques, donc qui sont riches de symboles, vous regardez la flûte enchantée de Mozart, il y a tout un ensemble de rites maçonniques. Moi, j'ai pratiqué plus ou moins de bon gré mal gré, mais enfin marrant bien, des rites d'intégration à la Cagne du Parc. On avait un bizutage complètement dont le rituel était complètement calqué sur les rituels maçonniques. À l'époque, je le savais pas. Donc on était enfermé, isolé, invité à méditer en silence, puis ensuite on devait défiler à genoux, etc., faire plusieurs fois le tour du lycée, à la fin on devait s'incliner, voilà, faire des serments complètement absurdes, enfin, parce que c'était des rituels parodiques, mais bon, je me suis quand même bien marré. Bon, c'était assez dans le style du rite, mais ces rites ne sont pas à proprement parler des signes efficaces au sens du catholicisme. Alors, signes efficaces, on pourrait croire qu'on a affaire à de la magie. La magie. Alors, dans la magie, vous avez un signe qui est supposé être efficace. Je vais faire comme si la magie, ça marchait. Donc, vous dites abracadabra et la citrouille se transforme en carrosse. Là, on est dans la magie. Ça va ? Donc là, on a une parole qui est un signe. On peut avoir la baguette magique aussi. Et la baguette magique et la parole abracadabra qui accompagne le geste, la baguette magique sur la citrouille, va la transformer en carrosse. Ou le geste de... La fée, la magicienne, sur l'ours, va le transformer en prince charmant. Sur la petite grenouille rose, va la transformer en splendide jeune fille, voilà, dans le plus simple appareil, pour reprendre une bonne blague. Bon, alors, ça c'est la magie. La parole est efficace du fait même de la parole. C'est la parole en elle-même qui serait porteuse de sa propre efficace. Bon, c'est pas ça dont il est question dans le sacrement. C'est souvent comme ça qu'il est perçu, particulièrement par des protestants quand ils critiquent la théologie du sacrement des catholiques. Le sacrement mériterait beaucoup plus d'être rapproché des pratiques de sorcellerie, qu'il ne faut pas confondre avec la magie. S'il y en a qui sont venus hier voir l'exorciste, je sais pas, il y avait le film Exorciste hier. Non, vous savez pas. Bon, dommage. Alors, la sorcellerie, ça n'a rien à voir avec la magie. Harry Potter n'est pas un sorcier. Harry Potter est un magicien, et ce n'est pas un sorcier. La sorcellerie, elle résulte d'un pacte avec le diable. C'est Faust. Faust, au début, il est plutôt magicien. Vous savez, c'est un alchimiste, donc il fait un peu de la magie, il aimerait bien que ça marche. Bon. Et puis, un jour, Faust, il franchit le pas, il fait un pacte avec le démon. Alors là, c'est intéressant, parce que les paroles de sorcellerie n'ont pas d'efficace par elles-mêmes. Ce sont des invocations du démon, et comme il y a un pacte avec le démon, je te livre mon âme si tu fais ceci pour moi. Vous voyez ? Donc dans la sorcellerie, ce qui fait l'efficace, ce n'est pas la parole en elle-même, c'est le contrat entre le damné, là, le sorcier, et le diable, qui met ses forces paranormal, si je puis dire, au service du sorcier, en vue plus tard de garder l'âme du sorcier. Prix du marché. Faust. Donc Faust, il devient sorcier, en quelque sorte, à partir du moment où il a un pacte avec le diable. Et ça ? Alors je vais voir si vous avez compris. Dans Aladdin et la lampe merveilleuse, lorsqu'Aladdin frotte la lampe, on est plutôt dans la magie. Parce que Aladdin frotte la lampe et par magie, là, c'est le geste de frotter la lampe qui provoque l'apparition du génie. Mais le rapport d'Aladdin avec le génie, il est plutôt de l'ordre, si vous voulez, alors un peu de la sorcellerie. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a une espèce de lien d'obéissance du génie par rapport à Aladdin que le génie fait les choses. Quand Aladdin dit « je veux, je sais pas, qu'on me serve un grand banquet tout de suite », là, c'est pas la parole « je veux qu'on me serve un grand banquet » qui va faire arriver le grand banquet. C'est l'acte du génie qui est au service d'Aladdin. Parce qu'Aladdin possède la lampe. Et là, il y a un lien magique qui fait que bah, le génie dépend complètement de la lampe. Donc il est obligé d'obéir. Voilà. Bon. Sinon, il lui arrive malheur. Ok ? Bon. Alors j'en arrive maintenant au sacrement. Alors le sacrement, ce qui fait l'efficace du signe, du geste et de la parole, c'est, je dirais, la libre volonté de Dieu. C'est Dieu qui agit. C'est pas ma parole qui va agir sur Dieu de manière magique ou par sorcellerie. Mais il y a un engagement entre Dieu et moi. Il y a un lien, et ce lien, c'est ce qu'on appelle l'alliance, la nouvelle alliance. La nouvelle alliance que Dieu a conclue avec le peuple de Dieu, l'Église, par le Christ et en la personne de Jésus-Christ. Donc il y a une alliance, voyez, une alliance dont les termes sont exprimés dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament voulant dire nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, elle est construite par analogie, bien qu'elle soit différente, avec l'ancienne alliance qu'on a dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, vous lisez le Deutéronome, vous avez tout un ensemble d'accords quasi contractuels entre Dieu et son peuple. Il y a une liste de tout ce que le peuple de Dieu doit faire et ce à quoi Dieu s'engage en contrepartie. Si le peuple de Dieu obéit, il aura telle bénédiction. S'il désobéit, il lui arrivera tel malheur. Voilà. Alors, c'est plus qu'un contrat. Parce qu'un contrat, c'est entre des personnes qui sont méfiantes, etc. Voilà. C'est une alliance. C'est une alliance, c'est-à-dire la différence entre le contrat et l'alliance, c'est la dimension du don total. C'est-à-dire qu'un contrat, ça peut se résilier. Le contrat, ça correspond à une rationalité moderne dans un état bureaucratique, etc. L'alliance... elle implique un engagement total des personnes l'une envers l'autre et indissoluble. Voilà. L'alliance, pour ça que la figure de l'alliance, c'est le mariage, mais le mariage tel qu'il était bien avant qu'il devienne ce qui est devenu chez nous, c'est-à-dire une sorte de contrat, justement à l'époque où le mariage était un don total de soi, qu'on ne pouvait pas résilier en aucune façon. Un mariage indissoluble. Telle est l'alliance de l'Ancien Testament. Et l'alliance du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, elle a la même structure fondamentale. C'est-à-dire que Dieu s'est engagé, cette fois, à donner la grâce, à donner l'Esprit Saint. Et, justement, il y a des actes que les hommes peuvent poser, à travers lesquels Dieu communique sa grâce pour aider les chrétiens à vivre selon les engagements, selon... de répondre à l'appel que Dieu leur a fait en la personne de Jésus-Christ. Vous voyez ? Bon. Alors, venons-en maintenant à ces sept sacrements. Excusez-moi, j'étais un petit peu long, donc je vais être extrêmement rapide. Donc Dieu, dans chaque sacrement, s'engage à quelque chose. Ce n'est pas moi qui m'engage. Quand une personne demande le baptême, certes, elle, baptême d'adulte, hein, elle s'engage à quelque chose. Mais ce qui est essentiel, c'est que Dieu va s'engager envers elle. Dieu s'engage envers elle. C'est-à-dire que par le baptême, Dieu lave tous nos péchés. C'est un des aspects de la symbolique de l'eau, mais ce n'est pas le plus intéressant. Là encore, tous les sacrements sont des signes, et chaque signe, si vous voulez, est complètement enraciné dans la culture biblique. Dans la culture biblique. C'est-à-dire que chaque signe a une portée symbolique qui nous éclaire sur son sens. Par exemple, le signe de l'eau, ça renvoie, pour une part, au déluge et à Noé. Parce que dans le déluge, Dieu a effacé toute une humanité méchante, perverse, pour créer une nouvelle humanité. À partir d'un petit reste. Eh bien, si je me fais baptiser, Dieu va balayer tout ce qui en moi était péché, etc., pour à partir de ce qui reste de moi, qui est la bonne partie de moi, faire une humanité entièrement renouvelée en moi. L'eau, c'est également l'eau du passage de la mer Rouge. La Pâque juive. C'est-à-dire que, en passant à travers l'eau, je passe à travers la mort. Le passage dans l'eau, c'est pour ça que le baptême par immersion est intéressant, même si c'est risqué avec les nourrissons, le passage dans l'eau, c'est un symbole de mort. Je vais mourir avec le Christ, puis ressortir et ressusciter avec le Christ. Ce que préfigure justement la Pâque juive avec la traversée de la mer Rouge. Vous voyez ? Donc l'eau, vous voyez, ce n'est pas simplement un symbole de pureté, etc. L'eau, c'est aussi un symbole menaçant. C'est quelque chose qui peut tuer et qui peut donner vie. Et il y a quelque chose en moi à faire mourir pour accéder à une vie nouvelle et supérieure. Fait partie de la symbolique du baptême. Vous voyez ? Pour ça que dans la Bible, l'eau est toujours ambiguë. C'est à la fois l'eau qu'on boit, l'eau vive, mais au départ, c'était les eaux mortes. Les eaux de la mort. Et dans le baptême, on a cette double symbolique. Ce qui fait que le baptême, c'est ce qui va me libérer de mon péché et me faire accéder à une vie nouvelle. C'est pour ça qu'une des grandes joies d'un baptisé, quand il baptise adulte, c'est justement que le baptême efface tous ses péchés, d'où le vêtement blanc que doit porter le baptisé. Et à travers cela, dans le baptême, le baptisé devient fils de Dieu. Il devient fils de Dieu, et en cela, le baptême s'inscrit dans la suite du baptême du Christ. Puisque le baptême du Christ... Dieu dit, voici mon fils bien-aimé. Et moi-même, en étant baptisé, je deviens fils de Dieu. Dieu m'accepte comme fils, me prend comme fils. Dans le baptême, l'Esprit descend sur moi. Le baptême est don de l'Esprit. Et donc la grâce spécifique du baptême, c'est en devenant fils de Dieu, je deviens membre de l'Église, corps du Christ. Vous voyez, je rejoins le Christ. Et je me rends réceptif à l'Esprit Saint qui va commencer à travailler en moi à partir de ce moment-là. C'est pour ça que le baptême est le premier sacrement d'initiation. Et c'est un début. C'est un début qui n'est pas achevé. D'où l'importance d'une confirmation. La confirmation, ce n'est pas du tout ce qu'on disait il n'y a pas si longtemps, simplement une ratification du baptême que j'aurais eu étant enfant. Non, ce n'est pas du tout ça, la confirmation. La confirmation... c'est le baptême pour les autres. C'est-à-dire que le baptême, c'est quelque chose qui me rend apte à recevoir la parole de Dieu pour être éduqué chrétiennement et croire. Le fruit du baptême, normalement, c'est la foi, si je suis éduqué convenablement. C'est-à-dire que le baptême me garantit que si on me communique la parole de Dieu, eh bien j'aurai reçu l'Esprit Saint de manière à recevoir convenablement cette parole de Dieu, à condition qu'on me la communique convenablement. C'est pour ça qu'une des exigences du baptême, quand on baptise des enfants, c'est que les parents éduquent leur enfant chrétiennement. Vous voyez ? Parce qu'un baptême qui ne serait pas suivi d'une éducation chrétienne des enfants, c'est un baptême auquel il manque une dimension essentielle, un des moyens humains qui doivent accompagner nécessairement le baptême. La confirmation, c'est le baptême pour les autres, enraciné dans la Pentecôte, le mystère de la Pentecôte. Dans le mystère de la Pentecôte, les apôtres reçoivent l'Esprit Saint qui se dépose sur eux comme des langues de feu, et cet Esprit Saint va leur donner la force d'annoncer la parole de Dieu aux autres, alors qu'avant, ils vivaient dans la peur. Et donc le don spécifique de la Pentecôte, c'est cette capacité de jouer un rôle missionnaire auprès des non-chrétiens. Et par là, le fidèle confirmé exerce ce qu'on appelle le sacerdoce commun des fidèles. Parce qu'il y a une grande analogie qui est que ce que le peuple de Dieu, pardon, ce que les prêtres sont dans le peuple de Dieu l'est au reste de l'humanité. Donc, tous les fidèles, collectivement, enfin, tous les chrétiens collectivement, mais les fidèles en particulier, doivent jouer auprès des non-chrétiens le rôle que les prêtres jouent auprès d'eux. Et cette analogie, elle a ses racines théologiques dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a au sein du peuple d'Israël la tribu des prêtres, la tribu des Lévites, et puis les autres tribus. Et lorsque Dieu dit au peuple d'Israël, tu seras un peuple de prêtres, alors que visiblement tout le monde n'est pas prêtre, puisqu'il y a les Lévites et les autres, ça veut dire que le peuple d'Israël jouera à l'égard des autres peuples le rôle qu'au sein du peuple d'Israël, la tribu des prêtres joue par rapport aux autres tribus. Ce qui veut dire annoncer l'évangile et s'offrir, parce que le prêtre, ce n'est pas simplement quelqu'un qui offre un sacrifice, c'est quelqu'un qui s'offre lui-même en sacrifice. Le prêtre, il est configuré au Christ, et le Christ, il est non seulement celui qui offre les offrandes, mais il est aussi l'offrande lui-même. Okay ? Donc un chrétien, il doit s'offrir lui-même, offrir sa vie spirituelle pour ceux qui ne le sont pas. Et ça, ça fait partie des grâces de la confirmation. C'est-à-dire quand on est chrétien, quand on est chrétien confirmé, ça veut dire que je vis mon baptême non seulement d'abord, parce que c'est le premier du baptême, pour ma propre sanctification, par l'initiation, par l'acquisition. Maintenant, je vais vivre ma foi chrétienne au service des autres. Elle va être au service des autres. Je ne vais pas avoir la foi seulement pour mon salut, mais pour le salut, en particulier de ceux qui ne sont pas autour de moi. Vous voyez ? Voilà. D'où d'ailleurs très grande similitude entre le rituel du sacrement de confirmation et le rituel de l'ordination. Dans l'ordination, le rituel, c'est l'imposition des mains. Et il y a une imposition des mains aussi dans le sacrement de confirmation. Ce n'est pas tout à fait la même parole, mais vous voyez, parce que c'est justement le chrétien confirmé qui va jouer ce rôle sacerdotal auprès de ceux qui ne sont pas chrétiens. Voilà. Donc, je pourrais aussi parler du mariage, j'aurais beaucoup de choses à dire. Je pourrais parler de tous les sacrements les uns à part. Dans tous les sacrements, on aura un don de l'Esprit-Saint qui sera spécifiquement adapté à ce sacrement. Et ensuite, la matière, ce qu'on appelle la matière du sacrement, c'est-à-dire les formes, oui, c'est curieux, les aspects matériels du sacrement, le signe employé, les gestes, etc., les paroles, tout cela est destiné justement à faire en sorte que ce don de l'Esprit-Saint particulier, ou ce lien particulier créé avec Dieu, exécute bien sa fonction dans le chemin de salut qui m'est ouvert et qui est ouvert aussi aux autres, parce que je ne reçois pas de sacrement seulement pour moi-même. Vous voyez ? Donc, pour conclure rapidement, est-ce que les sacrements sont du folklore ? Je n'ai pas de définition de folklore, c'est lamentable. Mais ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas simplement des rites destinés à la communauté chrétienne à manifester son caractère propre. Parce que justement, c'est exactement le contraire. Ce ne sont pas simplement des rites, ce sont bien des gestes d'alliance qui signifient une alliance vivante avec un être vivant qui est Dieu, et qui accomplit quelque chose à travers cela, alors que le rite, il est au sein d'une communauté, et c'est elle-même qui l'effectue pour elle-même. Vous voyez ? Donc le sacrement, il ne doit pas son efficace à une action collective, ce n'est pas du tout ça, il doit son efficace à un lien avec un Dieu transcendant, du moins du point de vue du catholique. Et d'autre part, ce n'est pas du folklore, au sens où le folklore, vous savez, il cherche à affirmer une identité d'un groupe particulier. Alors que tous les sacrements C'est pour ça que j'ai insisté sur la confirmation. Ils ont pour but, certes, d'abord ma sanctification, mais aussi la sanctification des autres. Parce que l'Église est sacrement. L'Église est sacrement, c'est-à-dire qu'elle est un signe efficace, elle est un sacrement qui a pour but la sanctification du monde. Et ça, c'est un des éléments essentiels de Vatican II. C'est-à-dire que les chrétiens, ils ne sont pas seulement chrétiens pour eux-mêmes, ils sont chrétiens aussi pour le salut de ceux qui ne sont pas chrétiens. Ça, c'est un des enseignements clés du Concile Vatican II. Alors là, vous comprenez mieux pourquoi les gens étaient moins portés à pratiquer après Vatican II, parce que quand on voit la grandeur des exigences, c'est un peu, on fait un peu la même tête que quand on a appris ce qu'était l'amour de charité, on se dit, ben, bigre, j'y arriverai jamais. Et ben voilà, mais justement, c'est parce que je n'y arriverai jamais par mes propres forces que j'ai besoin du secours de Dieu et besoin des sacrements. Donc, est-ce qu'on peut être croyant et pas pratiquant? Évidemment, on en a tous la tentation, parce que ça paraît difficile. Mais ce qui est certain, c'est que si on croit vraiment à ce que l'Église propose à croire, eh bien, on voit bien que cette pratique est nécessaire, qu'on a besoin de cette pratique, même si parfois on est découragé. Et justement, le rôle du sacrement, c'est de nous remettre sur la voie du salut. Je vous remercie de votre attention. J'étais un petit peu long, excusez-moi.